Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Préparer les esprits jusqu'au mois de décembre au moins, voire jusqu'à Noël. Jean Castex n'a pas changé les modalités du confinement lors de sa prise de parole hier. Il demande aux Français de tenir au minimum 15 jours de plus, vous l'entendrez. Alors que les restaurateurs sont dans une situation financière très difficile. La police tire à balles réelles en Angola. Elle veut en fait éteindre la contestation contre le gouvernement, contestation aussi contre le coût de la vie, vous le comprendrez. Et puis, en ce vendredi 13 novembre 2020, souvenir particulier des attentats meurtriers d'il y a 5 ans, du Stade de France au Bataclan jusqu'aux terrasses parisiennes. Ce soir, l'orchestre de chambre de Paris jouera une œuvre créée pour l'occasion, extrait en fin d'édition. 15 jours de confinement, ce n'est pas suffisant. Le Premier ministre a confirmé hier que les restrictions sanitaires seraient allégées pas avant la fin du mois. Les commerces non essentiels vont devoir garder porte close. Jean Castex a quand même essayé de dessiner des perspectives d'amélioration, peut-être en décembre donc. À brève échéance en tout cas, Stéphane Robert.
On va bel et bien sacrifier novembre pour essayer de sauver Noël. Jean Castex a confirmé hier soir ce que laissaient entrevoir plusieurs ministres depuis quelques jours. Il y a quelques signes d'amélioration. Le confinement commence à produire ses effets, mais c'est insuffisant. On est encore loin du compte.
Il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant.
Pour autant, malgré la fermeté affichée, le Premier ministre a tenté de trouver un entre-deux, entre prise en compte des situations sanitaires et économiques. Il a estimé nécessaire de dresser des perspectives et a laissé entrevoir, si les signaux d'amélioration se confirment, une éventuelle réouverture des commerces non essentiels à compter du 1er décembre. Disant cela, Jean Castex a, sans le vouloir, indiqué en creux que le confinement allait se poursuivre au mois de décembre. Une journaliste lui a d'ailleurs demandé à la fin de son allocution de confirmer cette information qu'il avait implicitement formulée. Et le Premier ministre a confirmé.
Alors, le 1er décembre, j'ai indiqué que compte tenu des éléments dont nous disposons aujourd'hui, les règles applicables au confinement continueraient à s'appliquer.
Il y eut au bout du compte très peu d'annonces dans l'allocution du chef du gouvernement hier soir. Elle était essentiellement destinée à préparer les esprits. Hormis quelques éventuelles concessions aux commerçants, les restrictions sanitaires seront maintenues au moins jusqu'à la mi-décembre. Et Jean Castex a d'ores et déjà prévenu que nous ne pourrons pas réveillonner normalement, comme les autres années.
Un réveillon qui ne sera donc pas possible à plusieurs dizaines de personnes réunies ensemble. Jean Castex l'a également précisé. Cela aura peut-être encore une incidence sur les bars et les restaurants fermés depuis plusieurs semaines maintenant, en fonction des régions. Anne-Laure Jumet a joint le chef étoilé Jean-François Piège, qui a 5 restaurants à Paris.
Décembre, c'est le plus gros mois de l'année. C'est en général entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. C'est les entreprises qui viennent célébrer, les collègues qui viennent faire un repas de fin d'année, c'est la famille qui vient de se retrouver pour ceux qui peuvent pas être ensemble à Noël. C'est le mois de décembre, pour nous, c'est le mois le plus important. Il y a une chose aussi, on oublie, mais il y a plein de gens qui font des bons cadeaux de restaurants. Nous, c'est une grosse part de notre activité. Cette année, si on est fermé, les gens ils vont pas le faire.
Jean-François Piège, qui s'est lancé dans la vente, a emporté dans 3 de ses établissements ce qu'il n'avait pas fait lors du premier confinement. L'Union européenne finalise cette semaine des tractations en bilatéral avec la firme américaine Pfizer pour acheter son éventuel vaccin contre le Covid-19. Mais une question se pose parallèlement. Comment vont faire les pays pauvres et les pays à revenus intermédiaires pour se fournir en traitement ? Hier, à Paris, plusieurs États riches et fondations ont annoncé des dons, mais il manque encore 28 milliards de dollars. L'OMS tente de répondre à cette question en activant un mécanisme international qu'elle a surnommé l'accélérateur ACT. Quelle est la philosophie de ce dispositif pour les pays les plus pauvres, Tara Schlegel ?
La logique est vraiment nord-sud. Les riches préachètent des doses, ils rassurent ainsi les producteurs de vaccins qui en redistribueront environ 20% aux pays les moins développés. Mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, de gros acteurs comme la Chine, la Russie ne sont pas dans COVAX. Et puis, les pays riches ont parallèlement à ce mécanisme international déjà acheté en bilatéral quasiment la moitié des vaccins qui seront mis sur le marché. Enfin, il y a aussi simplement la question de la production qui devra être colossale. Des ONG comme Oxfam plaident donc pour que les grands grands laboratoires renoncent à leur propriété intellectuelle. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, regrette Julia Herrez Garcia, responsable du plaidoyer Santé mondiale pour Oxfam.
Pour le moment, en fait, l'approche qui a été un peu prônée par les États, notamment la France, c'est de dire bah, on va permettre aux laboratoires qui développent les vaccins de mettre en place des licences volontaires. Une licence volontaire, c'est quoi ? C'est un contrat commercial privé dans lequel une entreprise pharmaceutique qui dispose d'un brevet sur, voilà, sur son vaccin, par exemple, va autoriser un producteur à produire son vaccin, mais dans les conditions qu'elle aura décidées, c'est-à-dire, par exemple, administrer à tel pourcentage de la population, dans telles conditions, etc., etc. Et donc, en fait, bien sûr, ça ne répond pas à l'exigence d'universalité et d'accessibilité.
Ces négociations sur la propriété intellectuelle ont lieu dans un autre cadre que COVAX, à l'OMC. Mais le premier round, mi-octobre, a échoué. L'Union européenne, notamment, plaide que les géants pharmaceutiques n'accepteront jamais d'investir s'ils doivent partager leur technologie. Et pourtant, le caractère mondial de l'épidémie les y obligera peut-être.
Tara Schlegel, qui travaille sur cette question des vaccins et qui avait notamment rédigé un article sur notre site franceculture.fr à propos des essais du laboratoire français Sanofi. Des tirs à balles réels en Angola pour réprimer les manifestations contre la pauvreté. La police angolaise n'a pas utilisé que des gaz lacrymogènes avant-hier pour disperser les jeunes manifestants qui protestaient donc contre le coût de la vie dans leur pays. Cela fait plusieurs semaines que des foules se rassemblent dans la capitale Luanda contre le gouvernement, contre le chômage et la corruption. Mais une nouvelle fois, le pouvoir a non seulement montré les muscles, mais il a fait usage de ses armes. Explication de Nathanaël Charbonnier.
Quand on est angolais, qu'on est jeune, on n'est pas surpris de la violence policière. Ken vit en France, d'où il suit l'enchaînement des manifestations dans son pays, et il sait que les autorités n'hésitent pas à tirer.
La brutalité policière, c'est un fait. Pratiquement, les manifestations en Angola, ça a toujours été à balles réelles. Ça n'a jamais été à balles de caoutchouc. En fait, il y a même une peur de manifester.
Les Angolais ont peur. Pourtant, ce 11 novembre devait être jour de fête nationale, fête de l'indépendance, fête interdite par le pouvoir, qu'il a fait savoir à sa façon à la population. Sur ces images, on peut voir des policiers frapper une femme qui marche dans la rue. Sur d'autres photos, on peut voir des corps sans vie sur le sol. Une violence insoutenable alors que la jeunesse veut juste la tenue d'élections et protester contre la pauvreté et le chômage qui touchent durement le pays.
Le manque d'emploi, c'est un grand problème. Qu'on veuille ou pas, tout le monde a au moins quelqu'un de sa famille qui est dans une situation assez compliquée par rapport à ça. Le problème, c'est qu'on ne sent pas que notre gouvernement trouve des solutions pour régler ces problèmes-là.
Pas de solution, mais de la violence. Amnesty International appelle les autorités à respecter la liberté d'expression et la tenue de réunions pacifiques dans le pays.
Le prince héritier saoudien promet de frapper les extrémistes islamistes d'une main de fer. Il réagit ainsi après l'attentat à l'explosif à Jeddah lors d'une cérémonie du 11 novembre, attaque qui a été revendiquée par les djihadistes du groupe État islamique et qui visait des diplomates occidentaux. Il y a eu 2 blessés légers. Le terrorisme qui avait frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, il y a 5 ans, jour pour jour. Ce vendredi, plusieurs hommages musicaux seront rendus aux victimes. L'Orchestre de chambre de Paris va notamment créer à la Philharmonie de Paris une œuvre originale musicale intitulée « Il fait novembre en mon âme ». Cette œuvre, Stéphane Capron, a été commandée par la mère d'une victime, Louise Albertini, qui a perdu son fils de 39 ans et qui était présent au Bataclan.
C'est à Madrid, devant Guernica de Picasso, que Louise Albertini a l'idée de cette commande.
Suite à l'émotion que ce tableau avait suscité, il nous est venu à l'idée que peut-être que l'État pourrait faire une commande d'une œuvre d'art comme le gouvernement des Républicains espagnols avait fait à l'égard de Picasso.
Elle écrit à Emmanuel Macron qui ne donne pas de suite, alors elle se tourne vers la Fondation de France et son action des nouveaux commanditaires qui missionne Bruno Messina pour accomplir le projet. Leur choix tombe sur le compositeur franco-libanais Béchara El Khoury.
Il s'est avéré que l'idée d'un poème symphonique, d'une œuvre longue, d'un seul tenant, serait la bonne œuvre, comme une sorte de discours comme ça. Et puis qu'il y aurait une voix de femme. Il voulait une voix de femme, mais il ne voulait pas de texte. Il ne voulait pas que ce soit signifiant, que chacun puisse poser ses mots.
Les stèles sont importantes pour mettre les noms, mais une œuvre musicale, c'est mettre de l'art qui nous amène au-delà des événements stricts. C'est donner une autre dimension aux événements. parce que c'est vraiment l'œuvre qui va nous aider à dépasser l'horreur de ces moments-là.
Louise Albertini souhaite que cette œuvre soit jouée partout dans le monde pour honorer Stéphane, son fils, et toutes les victimes du terrorisme.
Et ce concert hommage est donc retransmis ce soir à 20h30 sur le site et l'application Philharmonie Live et puis sur Arte Concert, diffusion également jeudi prochain prévue sur France Musique. Attentat à la mémoire et ses impasses, la discussion s'ouvrira ce matin sur France Culture avec les invités de Guillaume Erner à partir de 7h40. La météo de ce vendredi, de la pluie au nord de la Loire, du soleil au sud et des températures de saison, 7 degrés à Besançon ce matin, 12 à Paris, 16 à Marseille.